VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Bonsoir à tous, bienvenue dans le monde aujourd'hui. Eric Manilakis à la présentation de cette édition du vendredi 4 juin 2021. Voici d'abord le sommaire. Au Mali, rassemblement du M5 pour commémorer le mouvement de 2020 qui a entraîné le renversement d'Ibeka.
Pour ce premier anniversaire, ils sont sortis nombreux, plusieurs milliers, commémoration du premier anniversaire.
La suspension des opérations militaires franco-maliennes commence à se matérialiser. RDC, arrestation dans le territoire de Masisi du colonel Augustin Chimimana, ex-chef adjoint des renseignements des FDLR. La chasse au mototaxi clandestin à Conakry.
Je suis venu pour accompagner juste mon grand sur la banque d'ici. Donc on m'arrête.
Dans 10 minutes, vous suivrez également l'économie et les sports, mais d'abord le journal. La suspension par la France de ses opérations militaires avec l'armée malienne a commencé à se traduire sur le terrain. Les opérations conjointes Barkhane-Fama sont arrêtées. Les Français continuent seuls, a dit un responsable à l'état-major malien. Une mission militaire malienne vient de rentrer de s'évader dans le centre, à Bamako, pour cette raison, a dit ce responsable sous le couvert de l'anonymat. La force européenne Takuba, initiée par la France, refuse aussi les éléments au sol des Fama à Menaka, dans le nord-est, a-t-il ajouté. C'est une mesure conservatoire et temporaire dans l'attente de garanties que les colonels maliens rendront le pouvoir aux civils après des élections prévues en février 2022, a dit le ministère français des armées. Nous y reviendrons en page magazine. Toujours au Mali, plusieurs centaines de personnes se sont réunies cet après-midi à la place de l'indépendance de Bamako pour commémorer le premier anniversaire du mouvement dit du 5 juin, le M5-RPP. Cette coalition de partis politiques, de mouvements de la société civile, a été parachevé le 20 août 2020 par le renversement du président Ibrahim Boubacar Keïta, dit Ibeka. De Bamako, la correspondance de Mariam Kouyaté.
Dégage la France, soutien à Assimi Goïta, on ne veut plus de la CEDEAO, sont entre autres ce qu'on peut lire sur les pancartes que brandissent ici les manifestants pour ce premier anniversaire. Ils sont sortis nombreux, plusieurs milliers, commémoration du premier anniversaire, mais aussi des messages de soutien à l'agenda militaire sur le géant podium dressé ici. Doivent défiler les dirigeants de la coalition jusqu'à la dernière minute. Les organisateurs ne savaient pas encore si l'imam Mahmoud Diko, présenté depuis le début comme le père spirituel de ce mouvement, ferait le déplacement de la place de l'indépendance. Mais Chokel Kokala Maïga, lui, est bien là. Cet ancien ministre, membre influent du M5, a été désigné, selon plusieurs sources proches du M5, pour être le futur premier ministre de la transition, peut-être dès ce lundi. Les manifestants ici ne cachent pas aussi leur colère contre la France, qui a décidé hier soir de suspendre ses opérations conjointes avec les FAMA, les forces armées maliennes. Colère aussi contre la CEDEAO et l'Union africaine qui ont suspendu le Mali de leurs instances. Bamako, Mariam Kouyaté pour VOA Afrique.
Selon l'ONU, un tiers de la population au Tchad a besoin d'aide humanitaire d'urgence. 4 millions d'enfants de moins de 5 ans sont en situation d'insécurité alimentaire et 1,7 million n'ont pas d'accès régulier à des services de santé. De plus, le Tchad abrite 1 million de déplacés et réfugiés venant du Soudan, de la Centrafrique et du Nigeria voisin. L'organisation souhaite obtenir rapidement des fonds supplémentaires pour aider les plus vulnérables. La CIAC a tenu un sommet à Brazzaville pour se prononcer sur la situation au Tchad. Sur ce qui est sorti de la réunion, le point à Brazzaville avec notre correspondant Arsène Séverin.
Dans le communiqué publié par les 4 chefs d'État, rien n'a été dit sur l'incident entre le Tchad et la RCA. Mais c'est en clôturant la conférence que Denis Sassou Nguesso, hôte du sommet, a indiqué que les deux pays avaient résolu cet incident dans la paix.
Les autorités tchadiennes et centrafricaines ont choisi la voie du dialogue et de
Il est cependant prévu un tête-à-tête entre Faustin Archange Touadéra, le président centrafricain, et le premier ministre tchadien Albert Pahimi Palika, présent à Brazzaville. Pour l'essentiel du sommet, les quatre chefs d'État ont dénoncé l'activité du mercenariat en Afrique centrale. Elle pourrait déstabiliser non pas seulement le Tchad, mais aussi d'autres pays de la CAC ont reconnu les chefs d'État. La CAC a pris acte de tous les changements intervenus au Tchad depuis la mort en avril dernier du maréchal Idriss Déby Itno. Les trois chefs d'État qui ont participé à la réunion de Brazzaville aux côtés de Denis Sassou Nguesso sont Félix-Antoine Tshisekedi de la RDC, João Lourenço de l'Angola et Faustin Archange Touadéra de la RCA. Arsène Séverin, Brazzaville, VOA Afrique.
Des associations de défense de la presse en Côte d'Ivoire ont dénoncé vendredi à Abidjan l'agression la veille de journalistes au siège du Parti démocratique de Côte d'Ivoire, PDCI, de l'ex-président Henri Konan-Bédié. Plusieurs journalistes ont été brutalisés et leur matériel endommagé par des jeunes du PDCI, alors qu'ils attendaient jeudi la conférence de presse de dirigeants du PDCI et du ministre de la Réconciliation nationale, Kwadio Konan-Bertin, dit Kakabé, à l'issue de leur rencontre. Augustin Chimimana, un ancien officier de haut rang de la rébellion Hutu des FDLR, Force démocratique pour la libération du Rwanda, a été arrêté par des hommes armés dans l'est de la RDC. Les détails avec Jacques Aristide.
C'est dans une église à Ngungu dans le territoire de Masisi qu'Augustin Chimiyimana, ex-chef adjoint des renseignements des FDLR à Fouka, a été arrêté dimanche dernier. D'après un porte-parole de ce mouvement rebelle, il participait à une cérémonie de baptême des enfants dans cette ville où il vivait avec sa femme. L'arrestation a été menée par des hommes armés en tenue de l'armée régulière, venus avec 6 motos, toujours selon ce porte-parole. Le colonel Augustin Chimiyimana était le commandant adjoint des FDLR, chargé des renseignements de 2012 à 2019 avant de faire désertion. L'ambassadeur du Rwanda à Kinshasa, Vincent Karega, se réjouit de cette nouvelle. Vive l'état de siège pour la paix en RDC et dans la région des Grands Lacs, écrit-il sur Twitter. La province du Nord Kivu, comme celle de l'Ituri voisine, sont placées sous le régime de l'état d'urgence depuis le 6 mai dernier par le président congolais Félix Tshisekedi. Objectif, venir à bout des groupes armés qui sévissent dans ces régions frontalières du Rwanda et de l'Ouganda.
Le premier ministre centrafricain Firmin Grébada a appelé vendredi au forum de Saint-Pétersbourg les Russes à investir en Centrafrique, rejetant l'idée d'une contrepartie économique au soutien militaire apporté par Moscou à Bangui pour combattre les groupes rebelles. Le gouvernement nigérien a annoncé vendredi avoir suspendu les activités du service de microblogging et de réseau social de Twitter dans le pays, deux jours après la suppression par le réseau social d'un tweet du président Muhammadu Buhari. La Namibie a reconnu vendredi que le versement d'une aide de développement de 1,1 milliard d'euros négocié avec l'Allemagne en guise de compensation pour le génocide de milliers de Herero et Nama était insuffisante. Selon le vice-président namibien, l'Allemagne s'est engagée à renégocier le montant au fur et à mesure de la mise en œuvre des réparations.
VOA Afrique à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Le gouvernement français a publié vendredi un classement qui détermine les voyageurs qui pourront se passer de test PCR à partir du 9 juin pour entrer en France. Le coronavirus dans le monde, un état des lieux avec John Lyndon.
Les Européens verts, les Britanniques et les Américains orange, les Brésiliens rouges. Pour les pays classés rouges, des tests seront exigés que l'on soit vacciné ou pas et une quarantaine de 7 à 10 jours sera imposée à l'arrivée sur le sol français. L'Agence britannique des médicaments a autorisé l'utilisation du vaccin de Pfizer-BioNTech aux jeunes âgés de 12 à 15 ans. En Russie, les responsables se disent optimistes pour la reconnaissance de leur vaccin Sputnik V par l'OMS et l'Agence européenne des médicaments. Le Japon, lui, s'est retrouvé piégé avec les Jeux olympiques de Tokyo, prévus dans quelques semaines, a estimé un membre du comité olympique local, jugeant que l'événement avait perdu son sens, mais qu'il était trop tard pour l'annuler. La pandémie a fait plus de 3 700 000 morts dans le monde depuis son apparition en Chine à la fin de l'année 2019.
Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique et voaafrique.com. Dans l'actualité économique, nous retrouvons Claire Morin-Gibourg pour la Minute Éco.
La construction de la fibre optique entre le Cameroun et le Congo est réalisée à 98%, ont déclaré les responsables du comité de pilotage de ce projet au cours d'une séance de travail avec le ministre des Postes, des Télécommunications et de l'Économie numérique, Léon Juste Ibombo. Lancée en août 2020, la liaison à fibre optique entre le Congo et le Cameroun veut aider à une meilleure intégration sous-régionale et permettre une réduction des coûts et le désenclavement numérique des zones frontalières des deux pays. En Côte d'Ivoire, le chiffre d'affaires de la société Sucrivoire est en hausse de 2% au premier trimestre 2021 comparé à 2020. En revanche, son résultat net a fait un bond de 35% pour la même période. Selon Financial Afrique, la performance est due à l'économie réalisée sur les charges fiscales, notamment sur le bénéfice industriel et commercial. La société spécialisée dans la fabrication de sucre est basée à Borotou, dans le Nord-Ouest. Ici aux États-Unis, 559 000 emplois ont été créés en mai, soit deux fois plus qu'en avril. C'est le signe que la reprise s'accélère, mais le marché de l'emploi est toujours loin de son niveau d'avant la pandémie. Le taux de chômage est reparti à la baisse après avoir augmenté le mois dernier pour la première fois depuis un an, pour s'établir à 5,8% selon les chiffres publiés aujourd'hui par le département du travail.
Et dans la page sportive de ce soir, c'est Bagassi Koura qui est avec nous. Bonsoir Bagassi.
Oui, bonsoir à tous. Match amical demain à Abidjan entre les Étalons du Burkina Faso et les Éléphants de Côte d'Ivoire dans le cadre des éliminatoires de la Coupe du Monde au Qatar 2022. Le match aura lieu au stade Épimbé d'Abidjan. Selon la Fédération burkinabé de football, les Étalons se déplaceront au Maroc pour affronter les Lions de l'Atlas le 12 juin. En football toujours, Eric Maxime Choupo-Moting a prolongé de 2 ans jusqu'en 2023 son contrat avec le Bayern Munich où il est la doublure de Robert Lewandowski. C'est ce qu'annonce le club champion d'Allemagne. L'international camerounais de 32 ans a marqué 9 buts en 32 apparitions, toutes compétitions confondues, pour sa première saison en Bavière. Il a notamment scoré 4 fois en Ligue des Champions, dont 2 contre son ancien club du Paris Saint-Germain en quart de finale, alors que Lewandowski était blessé, sans toutefois empêcher l'élimination du Bayern. « Je veux continuer à gagner dans cette équipe », a-t-il dit, cité par le club. « J'aimerais atteindre la finale de la Coupe d'Allemagne et idéalement remporter la Ligue des Champions ». Champion d'Allemagne, le Bayern a été éliminé prématurément en Coupe cette saison. Et puis enfin, séisme à NBA, courageux mais impuissant à l'image de LeBron James, orphelin d'Anthony Davis blessé. Les Lakers ont été sortis dès le premier tour des playoffs, battus 113-100 au match numéro 6 par Phoenix qui affrontera Denver, tombeur de Portland en demi-finale à l'Ouest. C'est la 5e fois dans l'histoire de la Ligue qu'un champion en titre prend la porte à ce stade de la saison d'après. San Antonio avait par 2 fois subi cet échec en 2000 et 2015, tout comme Miami en 2007 et Dallas en 2012. James, lui, n'avait jamais encore connu d'élimination au premier tour d'une phase finale. La dernière fois qu'il avait été écarté par une équipe de sa propre conférence remonte à 2010, en demi-finale de l'Est perdue avec Cleveland contre Boston.
Merci à Bagassi pour les sports.
Écoutez VOA Afrique, désormais partout en Afrique. Retrouvez toutes vos émissions préférées sur la chaîne 555 de Canal+, dans tous les pays francophones. Vous pouvez également nous suivre dans une trentaine d'autres pays africains, du Nigeria au Zimbabwe, en passant par le Ghana, le Kenya, la Tanzanie et la Zambie. VOA Afrique, dans tout le continent africain, sur la chaîne 555 de Canal+.
Vous êtes à l'écoute du Monde aujourd'hui sur VOA Afrique. Eric Manela-Kizzato, retour avec vous pour aborder les dossiers du jour. 10 jours après le deuxième coup de force du colonel Assimi Goïta à 9 mois, la France a décidé hier soir de suspendre ses opérations conjointes avec les forces maliennes contre les djihadistes. Paris a aussi annoncé le retrait de ses conseillers militaires. La France insiste qu'il s'agit d'une mesure conservatoire et temporaire dans l'attente de garanties que les colonels maliens rendront le pouvoir aux civils après des élections prévues en février 2022. Pour une analyse, Bagassi Koura a joint à Bamako Nourun Togo, spécialiste des questions sécuritaires.
Bon, avec beaucoup de tristesse, parce que pour moi, en toute honnêteté, en tant qu'ancien conseiller au ministère de la Défense, je sais que nous travaillons en étroite collaboration sur certains domaines. La coopération d'abord, l'appui technique, l'appui sur le terrain, l'appui renseignement, tout ce qui se passe dans ce domaine-là. Aujourd'hui, la position de notre armée, l'armée de la sous-région que nous avons, c'est des armées qui ont des problèmes, qui ont une certaine capacité. Ils sont pas capables de défendre nos territoires, que ce soit au Mali, au Burkina et au Niger. Aujourd'hui, quelles que soient les contradictions, si l'armée française accepte donc de sortir de ce combat pour laisser seulement le Mali donc jouer, se jouer, donc ça sera très grave pour nous, les Maliens, et pour la sous-région. Donc, il me semble qu'il faut rapidement discuter pour avoir des garanties qu'il faut pour qu'ils reviennent. L'aspect technique, ils sont là pour nous assister pour dans la formation au niveau des écoles et au niveau même du ministère de la Défense. Et dans certains domaines, l'appui technique est là. Mais aujourd'hui, s'ils se retirent de tout ça, donc la collaboration que nous avons sur le terrain, franchement, c'est pas avec le cœur qu'on gère cette situation, mais il faut le gérer avec l'esprit, donc ça va créer des problèmes.
Alors, l'an passé, il y a eu un coup d'État. La France n'a pas réagi de la sorte. Qu'est-ce qui explique que cette fois-ci, ils aient pris cette décision-là?
Vous savez, ça veut dire que c'est les deux coups d'État dans une année. Ça a été très difficile. Et ces jeunes qui ont fait le coup d'État, ils n'ont pas l'explication qu'ils ont voulu donner à l'opinion nationale et internationale, c'est qui a énervé beaucoup de gens. Il ne peut pas avoir des contradictions entre eux seulement à cause de deux personnes. Les élever dans le gouvernement ne peut pas donc leur donner le droit donc, de prendre le pays en otage et de faire en sorte, à cause de la vie des deux colonels, mettre donc le pays en danger. Donc il me semble que l'explication politique qu'ils ont voulu donner en matière de communication n'a pas convaincu ce qui a énervé les responsables de la CEDEAO, ceux qui ont énervé les responsables des Limois et sur le plan international. Et donc, la communication n'a pas bien passé.
Alors, on sait que le colonel Goïta faisait partie d'une unité de lutte antiterroriste. Est-ce que cette unité est toujours à Mopti?
Cette unité, c'est eux qui ont arrêté le président Banda ou cette unité, c'est eux qui ont arrêté certains. Aujourd'hui, il me semble que il a carrément délocalisé, il est à Bamako aujourd'hui, il est à Kati, donc il gère tous ces hommes, c'est eux qui sont chargés de sa sécurité. Donc je pense réellement que ça aussi, ça fait partie de tout ça, des accusations portées par la France sur cette gestion-là. Donc aujourd'hui, nous ne maîtrisons pas plus le 70% de notre territoire. Et lui, sa mission, c'était de travailler pour sécurité le nord et le centre du Mali. Comme vous le savez, tous les jours, nous avons des attaques et nous n'arrivons pas à repousser l'ennemi. Tout ça, là-dessus, on prend en compte, ça veut dire qu'il y a problème.
Nourun Togo, spécialiste des questions sécuritaires, joint à Bamako.
Restez avec nous à Bamako, au Mali, sur le 102 FM, CVO Afrique, 24h sur 24.
Dans le nord-est du Nigeria et dans la région du lac Tchad, la rivalité entre deux groupes djihadistes est devenue presque une guerre sans merci. Le groupe État islamique en Afrique de l'Ouest et le groupe Boko Haram se battent pour le contrôle du territoire. L'ISWAP semble désormais avoir étendu son pouvoir. Pour plus de détails, Claire Morégibourg a joint le consultant en contre-terrorisme, Yann Saint-Pierre.
Pour Abou Bakar Shekau, qui était l'ancien chef de Boko Haram, pour lui, tous ceux qui n'adhéraient pas à sa vision de l'islam étaient considérés comme des apostats, donc des gens qui pouvaient être tués, des gens qui pouvaient être éliminés, donc des non-croyants. Même au sein des cercles djihadistes, Shekau était perçu comme quelqu'un d'incontrôlable, très, très violent. À l'inverse, pour l'État islamique, ou du moins ceux qui cherchaient à adhérer à l'État islamique au sein de Boko Haram à l'époque, pour eux, il y a des distinctions à faire entre un apostat, quelqu'un qui est non-musulman, qui refuse d'y croire, et un musulman qui n'est pas nécessairement rattaché à la vision que l'État islamique a de l'islam. Et donc, à partir de ce moment-là, la position du SWAP, la position de l'État islamique, c'était il faut protéger les civils, il faut faire en sorte qu'on ne peut pas tuer de façon indiscriminée, on ne peut pas s'attaquer à des mosquées de façon indiscriminée. Il faut être plus posé, il faut être plus discrétionnaire dans notre façon de faire les choses. Et cette interprétation-là, ces visions philosophiques-là, ces visions stratégiques-là, on fait en sorte que ça menait à un schisme en 2016 avec la direction de l'État islamique au Moyen-Orient ayant décidé qu'Abou Bakr Shekau ne pouvait plus mener ISWAP. Et donc, ils ont nommé un remplaçant qui se trouvait être le fils du fondateur original de Boko Haram, Mohamed Youssouf.
Alors, quelle est la situation aujourd'hui et que faut-il craindre?
La situation aujourd'hui, c'est que ISWAP a de facto un contrôle assez important sur des grandes portions de la région du lac Tchad. Donc, on parle vraiment du nord-est du Nigeria, du sud du lac Tchad, quelques portions dans la région d'Ifa au Niger, et est en mesure vraiment de s'étendre vers le nord-ouest du Nigeria, plus au sud dans le Cameroun, vers l'extrême nord du Cameroun, et un peu plus vers le centre et l'est du Nigeria. En intégrant le réseau de Boko Haram maintenant, ça renforce énormément les capacités des SWAP. Ça fait en sorte qu'ils ont accès aux ressources, ils ont accès au matériel, ils ont accès aux combattants. Et surtout, ils ont accès au réseau de Boko Haram, qui est un réseau qui avait vu aussi près de l'expansion dans le nord du Cameroun, dans la région du lac Tchad, mais surtout, peut-être plus important encore, vers le centre du Nigeria, le nord-ouest du Nigeria aussi. Et donc, en prenant contrôle de ce réseau-là et en se débarrassant de Shekau, ISWAP, on pourrait dire, doubler ses capacités. Et de par sa politique de gestion du territoire beaucoup plus modérée, ils sont maintenant en position de mieux défier le gouvernement nigérien et l'armée nigérienne. Donc, on se retrouve désormais avec un groupe terroriste qui est devenu très, très puissant dans la région.
Yann Saint-Pierre, consultant en contre-terrorisme et PDG de la société Mossecom.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Le Gabon, pays francophone, frappe à la portée du Commonwealth, dont les membres sont presque tous anglophones. Le projet s'accélère avec les visites de travail et les rencontres entre les autorités gabonaises et britanniques. La candidature de Libreville est suspendue au prochain sommet au Commonwealth, prévu mi-juin à Kigali. De Libreville, la correspondance d'Ismaël Obiang Nze.
Dans sa volonté d'intégrer le Commonwealth, le Gabon vise en fait à adopter l'anglais comme deuxième langue officielle du pays, même si elle fait déjà partie des programmes scolaires. Véronique Nyangui, élève de la classe de seconde.
Le fait d'apprendre l'anglais depuis la maternelle jusqu'aux classes supérieures, c'est une bonne chose pour nous parce que ça va également nous permettre de mieux nous exprimer dans cette langue. Et pour nous, d'autres élèves qui souhaiteraient aller dans des pays étrangers, par exemple.
Le projet d'adhésion du Gabon au Commonwealth fait cependant débat. Une partie de l'opinion publique y voit un pied de nez du pouvoir de Libreville à son partenaire historique, la France. Mais pour l'ancien ministre de l'Éducation nationale, Florentin Moussavo, le Gabon reste souverain dans ses choix politiques et économiques.
Il faut que nos amis francophones et nos amis français comprennent que le Gabon est un pays libre, un pays indépendant, un pays souverain qui a parfaitement le droit. Et le fait d'appartenir à la francophonie n'interdit pas du tout au Gabon, ni à la Côte d'Ivoire, ni à tout autre pays, d'aller chercher dans les autres organisations internationales et chercher les espaces où l'on peut se réaliser.
À Libreville, l'adhésion du Gabon à cette organisation intergouvernementale qui regroupe d'anciens territoires de l'Empire britannique apparaît comme une opportunité économique et un moyen de s'ouvrir à de nouveaux marchés. Une grille de lecture qui ne convainc pas l'économiste Albert Odossa.
Il faut d'abord restructurer son économie. Dès lors qu'elle est restructurée et viable, automatiquement ce n'est pas vous qui courez derrière les partenaires, ils viennent à vous en raison de vos performances.
Pour Jesse Elaekoga, porte-parole de la présidence gabonaise, l'ambition du Gabon est motivée par des opportunités d'échanges commerciaux au sein du Commonwealth.
Le Commonwealth représente 2,2 milliards d'habitants. Les chiffres donnés même par le Commonwealth, c'est que les membres entre eux aboutissent à des échanges commerciaux 20% plus rapidement que dans la normale et qui coûtent aussi 20% moins cher. Donc ce sont des opportunités pour le pays, à l'image de la zone de libre-échange continentale qu'on est en train de développer avec l'Union africaine. La volonté du Gabon et du président de la République, c'est de développer de nouveaux partenariats qui puissent bénéficier tout simplement à son pays et à sa population.
Libreville veut varier son expérience dans les choix de développement en s'inspirant des modèles anglophones. Libreville, Ismaël Obionze pour VOA Afrique.
Une petite partie du secteur des mototaxis est formalisée en Guinée. Sous l'effet de la pandémie de Covid-19, les taxis-motos clandestins se sont multipliés à Conakry, où policiers et motocyclistes jouent au chat et à la souris depuis l'interdiction de cette activité essentielle aux conducteurs pour avoir un gagne-pain et aux clients pour échapper aux bouchons endémiques de la capitale guinéenne. Jacques Aristide nous en dit plus.
En plein jour à Conakry, le jeu peut dégénérer, comme lors de ce contrôle. Deux policiers en pointe, un pilote récalcitrant, l'un d'eux déséquilibre le conducteur d'une clé aux jambes et lui passe les menottes. Les passants tentent d'intervenir pour les séparer. Mamadou Aliou Diallo est l'un de ces conducteurs de moto qui sont tombés entre les griffes des policiers.
Ce matin-là, moi, on m'a pris, j'étais avec mon grand. Je suis venu pour accompagner juste mon grand sur la banque d'ici. Donc on m'a arrêté. On m'a demandé les dossiers, j'ai montré les dossiers. Donc on m'avait dit immédiatement là-bas que c'est taxi que j'ai. J'ai dit non, c'est pas taxi. J'ai dit comment c'est taxi, j'ai une plaque personnelle. Donc il faut différencier les taxis moto et les plaques personnelles aussi.
Les altercations et les courses-poursuites sont devenues encore plus fréquentes sur les routes guinéennes. Les forces de l'ordre parlent d'une prolifération intempestive des mototaxis en contravention d'un décret d'août 2016. Thibaut Camara est ministre d'État.
La plupart des accidents mortels dans la circulation aujourd'hui sont liés aux mototaxis. Combien de nos compatriotes ont perdu la vie par le fait des mototaxis dans la circulation et de leur cohabitation un peu avec les automobilistes. Il faut donc nécessairement mettre un peu d'ordre dans ce secteur.
Les contrevenants sont privés de leur véhicule, mais pour ces motards, c'est aussi leur gagne-pain qu'ils perdent dans un des pays les plus pauvres du monde. Mamadou Bachir Diallo, conducteur de taxi-moto.
C'est interdit, mais nous on n'a pas de boulot. On a ça comme boulot. Si tu vois que les enfants ne sont pas dans les quartiers perdités, c'est parce qu'il y a la moto. Donc on se débrouille avec ça. Et ça c'est de l'injustice parce qu'il y a des policiers ici qui ont des motos en ville ici. Et leurs petits roulent chaque jour ici. Et on ne les arrête pas.
Pour récupérer leur moto, il leur faut 200 000 francs guinéens. Une grosse somme pour les conducteurs de moto. Ils gagnent entre 100 000 et 125 000 francs guinéens par jour, entre 10 et 12 dollars. Une bonne partie sert à payer la moto. Au bout du compte, certains ne se retrouvent qu'avec environ 3 dollars par jour. Mais c'est tout de même de l'argent bienvenu. Les clients aussi y trouvent leur intérêt. Moins cher qu'en voiture et le gain de temps est considérable. Les autorités, elles, rappellent que plus d'une centaine de personnes ont été tuées en Guinée depuis le début de l'année dans des accidents provoqués par les mototaxis.
Cette édition, merci de votre fidélité à VOA Afrique. Un grand merci à toute l'équipe de la rédaction et de la production qui a permis la réalisation de cette édition. Georges Léonard Sagnot, Michel Claire-Joseph et Lionel Manila Gaïma. Eric Manila Kiza était à la présentation. Ainsi va le monde aujourd'hui. Pour plus d'informations 24 heures sur 24, restez branchés sur voafrique.com. Sans oublier nos pages Facebook, YouTube, Twitter et Instagram, bien sûr. Je vous souhaite une excellente soirée à l'écoute de nos programmes. Au week-end et à la prochaine.